Bras zéro, brassage radio.
C'est la rentrée pour nous.
Et après une année à bas régime,
un peu loin des micros,
avec les unes et les autres par Mons et par Vaux,
on revient avec de l'ambition,
des envies de changement,
du mouvement.
Bref, une rentrée comme on aime, avec de bonnes résolutions.
En un mot,
comme en mille,
on veut faire de la radio.
Jusque-là, rien de nouveau.
Oui, mais ça fait un bon moment qu'on en fait de la radio.
Oui, mais là, on veut faire des plateaux.
Parce que ça rime en haut ?
Non, parce qu'on veut que ça bouge.
Que ça pulse !
Et qu'on entende battre le monde sur les ondes.
Waouh, c'est beau ça.
Ouais, c'est pas mal.
Voilà, Bras zéro continuera à faire du Bras zéro, mais plus souvent.
Voilà, c'est dit.
Rien de plus.
Non.
Bah, y a pas de quoi faire une émission, hein.
Non, c'est pas ça le thème du jour.
Non. Aujourd'hui, on va notamment entendre plusieurs extraits d'un plateau radio posé sur une table de petit-déj un matin de festival. Ça se passait à La Famille, une grande fête latino-berbère qui a toujours lieu fin août à Villemur-sur-Tarn. On y a reçu Mujeres Tejiendo Red, femmes qui tissent du réseau. C'est un collectif de femmes guatémaltèques qui ont en commun de vivre à Bilbao, en Espagne, et d'être travailleuses domestiques. Elles nous parlent de leur combat quotidien pour survivre, avec leurs galères de femmes, migrantes, pour défendre leurs droits de travailleuses ultra précaires et pour se faire du bien. Elles étaient de passage lors d'une petite tournée dans le sud-ouest pour rencontrer d'autres collectifs de lutte, partager leurs histoires et aussi prendre des vacances et sortir la tête du guidon. Bonne écoute.
Bras zéro et vénère, pas prêt, t'as terre. Bras zéro et vénère, pas prêt, t'as terre. Bras zéro et vénère.
Nosotras somos mujeres tejiendo red.
Nous sommes Mujeres Tejiendo Red. Cette organisation a commencé comme un rêve. On était trois femmes. Je suis une des fondatrices. Et on avait envie d'avoir un groupe de femmes du Guatemala. On connaît d'autres organisations, mais il nous manquait de pouvoir discuter entre nous, parler notre langue, qu'on comprenne les blagues qu'on se raconte entre nous. Notre cuisine nous manquait, notre culture, nos danses traditionnelles.
Extrañábamos nuestra comida, nuestra cultura, nuestros bailes típicos.
Donc on a décidé de se réunir, de voir s'il y avait d'autres femmes. On a fait une première réunion et il y avait 60 femmes qu'on ne connaissait pas. Et on a commencé avec un groupe WhatsApp. On a commencé à s'organiser comme ça. Si on entendait parler d'une activité, on invitait les copines. C'était une activité où on voulait être entre femmes à cause de la situation d'où on venait, parce qu'on n'était pas encore à l'aise avec d'autres personnes. Et après, on a commencé à voir les besoins qu'on avait. Parce qu'au début, c'était on se voit pour manger, danser, faire des petits trucs pour ne pas nous oublier. Et après, pour venir ici, certaines ont eu le privilège de connaître une personne qui nous a dit « Achète ton billet et viens. On n'a pas besoin de visa pour entrer en Espagne. » Mais certaines camarades n'étaient pas au courant. Et il y a des gens qui profitent de ça pour leur faire payer le double ou le triple, comme si elles allaient aux États-Unis. Et avec ces arnaques, on a vu que des camarades avaient besoin d'informations. Et on a décidé de commencer à nous former, à faire des recherches, se renseigner, pour informer toutes les camarades pour qu'elles ne se fassent pas arnaquer elles aussi. Comment tu fais les papiers ? Comment tu déclares un domicile ? Comment tu attestes d'une résidence ? Quelles sont les pièces à fournir pour que tu n'aies pas besoin de payer un avocat ? parce que c'est hyper cher et ce sont des choses que tu peux faire toi-même.
Para que no tengas que pagar un abogado, porque sabemos que los abogados son super caros y son cosas que puedes hacerla tú misma.
Et de là, plusieurs autres défis nous attendent, comme la langue. C'est le même espagnol, mais là-bas, elle parle basque. Et pour nous, c'est super compliqué. Chacune d'entre nous parle une langue différente. Moi, je parle quiché. Véronica parle lachi, qui sont des langues indigènes. Andrea aussi parle quiché. Et le basque, ça nous est difficile. Et c'est compliqué d'apprendre à le parler. Il y a peu de cours, ils sont chers, alors on ne peut pas. Et les horaires ne coïncident pas avec le travail qu'on a. Ensuite, les seules possibilités qu'on a pour travailler, c'est être à domicile ou externe. Donc ça aussi, c'est compliqué de nous réunir pour faire nos activités en travaillant tous les jours. On se voit les samedis après-midi ou les dimanches, qui sont nos journées de libre, pour faire des activités, lutter pour nos droits, pour faire un petit film de propagande. Moi, au niveau national, je fais partie de différentes associations qui luttent pour le droit des travailleuses domestiques. Depuis peu, on a réussi à obtenir le droit de grève qu'on n'avait pas quelques années en arrière. On n'avait pas tous les droits d'un travailleur normal. Et on s'est battu. On est allé là où se prennent les décisions, là-bas, à Madrid. On était là. On a fait des dossiers. On y est allé. On a fait des vidéos. Toujours sur le pied de guerre pour avoir les mêmes droits que les autres travailleuses.
Nous avons fait des documents, nous avons fait des vidéos, des dénonciations, ahí al pie para tener los derechos que las demás trabajadoras tienen.
Alors moi, je vais parler plutôt du thème employé de maison. C'est compliqué pour nous d'obtenir un contrat de travail. On peut trouver du travail, mais si on n'a pas d'adresse, on ne nous fait pas de contrat. La première chose qu'on doit faire, c'est déclarer une adresse. Mais c'est difficile de trouver quelqu'un qui te fasse une attestation. Il y a le sujet de la location aussi. Comment faire pour vivre ? Ici, c'est dur pour nous parce que quand on arrive, on cherche un endroit où vivre. Et tant que tu n'as pas de travail, on ne te loue rien. Le thème de la sécurité sociale et de la santé aussi. On te demande une carte de sécu, et si tu ne l'as pas, c'est difficile d'être reçu par un médecin pour n'importe quelle maladie. Sur le sujet de l'emploi, dernièrement, pour s'occuper d'une personne âgée, tu dois suivre un cours qui s'appelle socio-sanitaire. Il y a du travail, mais on te demande ce diplôme et beaucoup ne peuvent pas le passer à cause de nos horaires de travail. C'est compliqué, on nous met des barrières. Les choses changent au fur et à mesure.
À propos de la cohabitation dans les appartements, c'est compliqué aussi. Parce qu'on n'a pas l'espace pour faire notre propre nourriture. Alors les camarades qui sont là depuis longtemps, qui ont leurs papiers en règle, normalement, quand tu loues un appartement, tu dois demander à déclarer les colocataires en fonction de ce que tu gagnes. Donc à travers cette personne, si elle a ça, elle peut prendre un appartement et elle peut accueillir les camarades dans le besoin pour vivre avec elle. Par exemple, moi, j'ai une maison. J'ai déclaré deux colocataires. Et il y a deux copines guatémaltèques qui vivent avec moi. Et quand elles partent travailler à domicile, elles quittent l'appartement. Et elles peuvent rester là où elles travaillent. parce que nous, on cherche du travail à domicile pour pouvoir payer notre dette au Guatemala.
Sí, también con el tema del padrón, nosotras como organización un tiempo hicimos una pequeña campaña.
Sur le thème des adresses, on a fait une campagne il y a quelques années pour pouvoir déclarer des domiciles pour certaines camarades. Parce que c'est super important pour tout, pour avoir accès à la santé, pour que les enfants puissent être scolarisés, parce que beaucoup d'entre nous avons des enfants. Alors on a fait campagne, en parlant aux camarades, aux gens qui vivent ici, ou des personnes espagnoles, basques, pour qu'ils nous déclarent chez eux. Et beaucoup ont ouvert leurs portes pour les déclarer même si elles ne vivaient pas là. Parce que d'autres nous louaient l'attestation, même si tu ne vivais pas là, 100 euros, 50 euros minimum, sans y vivre. Alors on est fatigués de tout ça et on a décidé de chercher d'autres options. Et il y a eu pas mal d'attestations de fait pour qu'on puisse avoir accès à la santé surtout. Parce qu'avec le changement d'alimentation, beaucoup d'entre nous ont eu des problèmes qu'on n'avait pas dans notre pays. Des allergies, plusieurs opérations de la vésicule. Et en ayant un réseau de camarades, on a réussi à avoir ce soutien pour survivre dans ces moments-là. Moi, on m'a opéré quand ma fille était toute petite et j'ai eu l'entourage suffisant pour pouvoir la laisser. De ne pas te préoccuper quand tu es hospitalisé pendant une semaine. Où tu laisses ta fille si tu ne connais personne?
De no preocuparte al estar interna en un hospital por una semana y dónde dejas a tu niña si no conoces a nadie.
Le métier des corps meurtris, extrait du livre World and Work. Hôtel Cleaners. Le secteur du nettoyage emploie 500 000 personnes en France, dont 79% de à temps partiel. 50% ont plus de 44 ans et 66% des employés sont des femmes. Le secteur réalise un chiffre d'affaires de 12 milliards d'euros, selon la Fédération des entreprises de propreté en 2016. Les employés de nettoyage dans l'hôtellerie sont régulièrement exposés à des substances toxiques contenues dans des produits utilisés pour laver les lavabos, les baignoires, les toilettes et les surfaces vitrées, ammoniac et solvants irritants pour la peau, les yeux, les voies nasales et la gorge, qui peuvent aussi provoquer de l'eczéma et de l'asthme. Le risque de cancer est élevé. Les pneus allergènes présents dans les poussières remises en suspension par les opérations de ménage peuvent être en cause, tout comme les très nombreux produits d'entretien, s'ils contiennent des composants volatiles ou non volatiles et appliqués par pulvérisation, irritants, ammoniac, au javel, acide fort et ou sensibilisants. Certains produits à base de solvants peuvent endommager le foie et les organes reproducteurs. Les gants en latex utilisés pour le nettoyage sont également à l'origine de réactions allergiques. Le nettoyage des chambres d'hôtel est très éprouvant pour le corps, du fait de mouvements répétitifs qu'il induit, soulever, abaisser, pousser et retourner des matelas, enfiler et enlever des têtes d'oreiller, porter, plier les draps et border les lits, travailler en expansion ou courbé, déplacer et manipuler des appareils électroménagers lourds et pousser des chariots, sollicitations physiques intenses, charges statiques très lourdes, torsion du corps, efforts musculaires excessifs et cadences élevées liées au quota quotidien de chambres à faire, tous ces facteurs suscitent des risques très élevés pour la santé. Ils sont démultipliés par la mauvaise conception ergonomique des appareils de nettoyage. Pendant le service, les employés poussent des chariots surchargés entre les chambres et souvent entre plusieurs étages. L'apparition de suites de luxe comportant des matelas king size, une literie abondante et des aménagements de prestige ont accru encore les risques pour la santé. Sans surprise, Les femmes de chambre sont les employées de l'hôtellerie les plus touchées par les troubles musculo-squelettiques, les fameux TMS. Tendinite ou ténosynovite, poignet, coude, épaule. Atteinte des nerfs périphériques, lombalgie chronique, hernie discale, lombaire, lésions chroniques du ménisque, etc. Plus encore, du fait des contraintes de temps et des cadences, elles sont particulièrement sujettes aux traumatismes physiques, comme les lumbagos, entorses, déchirures musculaires, contusions, chutes ou glissades, etc.
Bueno, el problema que tuvimos el mes de octubre,
avec ce qui s'est passé en octobre dernier, les blocages là-bas au Guatemala, nous aussi on s'est réunis. On a fait 3 manifestations à Bilbao et on est quand même beaucoup de Guatémaltèques. Peu à peu. Et on grandit en connaissant plus de Guatémaltèques par le bouche à oreille. Et par l'identification de nos habits traditionnels quand on marche à Bilbao. Ils nous voient et... tu es du Guatemala? Oui. Et tout ça. Alors on s'embrasse et on dit qu'on a un groupe de femmes, qu'elles nous rejoignent, qu'on a un fil WhatsApp, Facebook, Instagram. Et c'est comme ça qu'on regroupe de plus en plus de copines du Guatemala.
Corporando como compañeros y compañeras de Guatemala. Sí.
Bueno, quería saber si en la red, en vuestra red,
je voulais savoir si dans votre réseau, vous aviez des moyens de vous soutenir économiquement. Si vous faites des tontines ou ce genre de choses qu'on fait.
Por ejemplo, cuando estuvo el tema del COVID, varias compañeras se quedaron sin trabajo.
Par exemple, avec le COVID, beaucoup de camarades ont perdu leur travail. On s'est organisé avec d'autres groupes pour faire un crowdfunding, pour trouver de l'argent et qu'elles puissent payer leur loyer. Ça a été compliqué parce qu'on travaillait depuis chez nous. Beaucoup de camarades ne pouvaient pas aller travailler, donc elles n'avaient aucune ressource. Avec le crowdfunding, on a pu aider 16 copines, celles qui en avaient le plus besoin pour le loyer. Aussi, une fois, on a fait une vidéo pour un concours et on a gagné. Il y avait un prix de 1500 euros, un truc comme ça. Et là aussi, on a vu que des copines étaient vraiment dans le besoin. On a pu les aider un peu.
Viendo que algunas compañeras tenían necesidades super importantes, se les ha ido apoyando. Y también con lo de las ventas que tenemos.
Et aussi, avec les ventes de nourriture, quand on voit qu'une copine est en galère, comme nos plats sont très élaborés, on les fait, on les vend et ça se vend bien. Et de là, on trouve de l'argent pour se soutenir. Beaucoup d'entre nous travaillent en interne. Ça veut dire que tu dors, tu vis, tu manges, tu sors le samedi à 14h et rentres le dimanche soir, si on te l'autorise. Il y en a certaines qui peuvent sortir samedi après-midi, rentrer dormir, ressortir dimanche une fois le petit déjeuner servi et revenir pour le dîner. Elles n'ont pas une soirée de libre. Elles sont payées 700 euros, 800 euros, des salaires misérables avec lesquels tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas te payer de loyer, donc tu dois vivre là où tu travailles.
Autre pregunta. Bueno, cuando
tocamos tema migración, quand on parle de migration, souvent arrive le sujet du trafic de personnes. Donc, je me demandais si dans votre organisation ou votre réseau, vous avez eu des cas comme ça où les patrons prennent les papiers des femmes qui travaillent chez eux et les prennent comme esclaves domestiques. Et si vous pouvez faire quelque chose, enfin, comment vous faites avec ce genre d'histoire quand il le faut?
Quitan todos los papeles de la gente para que no puedan salir y esclavizan domésticamente a la gente.
Bueno, sí existen esos casos en España.
Oui, il y a ce type de cas en Espagne. Pas dans notre organisation, mais dans le réseau, oui. On prend les passeports des gens. Et ça arrive surtout dans les villages éloignés, où les personnes sont isolées et n'ont pas de réseau pour les soutenir, les informer. Dans ces villages, on ne parle que le basque. Il y a le cas d'un homme qui a essayé d'agresser des femmes, qui les a battues. Il est là, ça se sait dans le village. Les gens savent que le gars est comme ça, mais ils ne l'ont pas dénoncé. C'est super compliqué parce qu'il y a des personnes qui préfèrent sortir de là, oublier et ne pas dénoncer parce qu'on a peur. Si tu poses plainte, mais que tu n'as pas tes papiers en règle, tu risques de te faire virer du pays ou une amende pour être en situation irrégulière. Alors, beaucoup de copines préfèrent se taire, ne pas dire qu'elles subissent des agressions, des mauvais traitements, et pas seulement physiques, aussi émotionnellement. Parce qu'on arrive avec un deuil migratoire. Venir ici, c'est laisser ton pays, ta nourriture, tes gens, ta famille, tout laisser, et arriver dans un pays complètement inconnu. Tu peux avoir une copine, une connaissance, mais c'est pas pareil. Alors arriver et être enfermé, parce qu'on arrive dans des quartiers d'appartements assez fermés, où tu ne peux pas faire grand-chose. Beaucoup de camarades ont fait des dépressions. Et ça, si tu n'as pas de réseau, à qui tu le racontes? Si tu n'as pas une copine pour aller boire un café, et nous on fait attention à se parler, même si c'est sur WhatsApp, est-ce que tu vas bien? Pour ne pas qu'il y ait cette solitude. Parce qu'on veut que les camarades aillent bien, que nous aussi nous allions bien, et aussi mettre sur la table le soin entre nous. Nous, on prend soin des autres, mais qui prend soin de nous?
Yo comento algo ya como de mi persona, porque esto que ha empezado de mujeres tejiendo red.
Moi, je peux raconter une expérience personnelle. Mujeres Tejiendo Red commence en 2019 et moi, je suis arrivée ici en 2012. En 2012, je connaissais quelqu'un qui pouvait m'héberger dans son appartement avec sa famille. Après, j'ai cherché du travail et c'était dur parce que je n'avais pas les papiers. Et puis, j'ai trouvé un travail où, comme disait ma camarade, j'ai été esclave pendant 3 ans. Je ne pouvais pas sortir, même pas les samedis et les dimanches. Et maintenant, émotionnellement, ça fait mal, parce que c'est des choses qu'on a vécues, et c'est dur. On est seul, sans la famille, et enfermé entre 4 murs avec des personnes âgées. Et on comprend, ces personnes, elles ne vont pas bien, elles n'ont plus toute leur tête, elles ont Alzheimer. Alors on prend soin d'elles. Des fois, elles ne dorment pas et tu dois être là jour et nuit, jour et nuit. Moi, j'ai été là pendant presque 3 ans. Ça a été tellement dur parce qu'on n'avait pas cette organisation. On ne se connaissait pas parce qu'il y avait d'autres femmes guatémaltèques. Et dans cette situation, je n'avais personne avec qui parler, personne qui puisse m'aider à sortir de ce trou où j'étais. Et c'est pour ça que maintenant, on ne permet plus que les copines qui viennent chercher une nouvelle vie, qu'il leur arrive des choses pareilles.
Vous pourriez nous raconter pourquoi vous avez décidé de migrer ?
Alors, c'est très personnel comme sujet, mais beaucoup de camarades sont partis parce que leurs compagnons étaient ici. D'autres sont venus pour faire des études, beaucoup à cause de la situation économique, d'autres parce qu'elles étaient en danger. Ça, on n'a pas encore dit. Mais il y a des camarades qui sont exilés parce qu'elles défendaient la terre. Parce que nous défendons beaucoup la terre. Nous avons une connexion super importante avec la terre. On la respecte beaucoup. Et donc beaucoup sont venus à cause de ça, poursuivis parce qu'elles étaient en lutte pour la terre.
Conciencia cósmica de herencia mágica, buscando en la sombra los rastros de mi alma, aprendiendo a convertirme en animal como un nahual. Soy un cuerpo transitando el camino espiritual, no es lineal, mi lenguaje es ancestral, viajo en un espacio. por igual. Soy criatura entre culturas, surgando entre la basura las creencias que me anulan para darle sepultura. Madre natura, sutura con ternura la ruptura de mi cuerpo cuando solté mi dura armadura. Y es que no madura una herida si no cura, una mente sin locura, un corazón sin ataduras. Fluir es destruir y volver a construir una casa sin paredes y perder miedo a morir. Mestiza soy, contradicción a dos voy, con cuatro colores del maíz en mi color yo. Mestiza soy, contradicción a dos voy, con cuatro colores del maíz en mi color yo. Mestiza soy, contradicción a dos. Cuatro colores del maíz en mi color. Mestiza soy, contradicción atroz. Cuatro colores del maíz en mi color.
Mestiza soy, mestiza soy. Cuatro colores, mestiza soy. Mestiza soy, mestiza soy. Cuatro colores, mestiza soy.
Buscar mi identidad en una sociedad racista, la mente colonialista instalada en mi pupila. El reflejo en el espejo me devuelve lo que creo. Si no moldeo mi alma, yo lo harán los modelos eurocéntricos, palocéntricos, que convierten mi experiencia en un objeto exótico. Pintando las culturas como algo folclórico, restándole lo subjetivo a los modelos teóricos. Quisieron que callara la herencia de mi sangre. Quisieron que olvidara la violencia a mi madre. Pero no pudieron quitarnos el fuego interno, el eterno conocimiento, las señales en los sueños. Por eso defendemos nuestra tierra y sus secretos con los dos puños en alto y en el alma amuletos. Con la fuerza del volcán, el rugido del jaguar, la fuerza de guerrera y espíritu animal. Mestiza soy, contradicción a dos voy, con cuatro colores del maíz en mi color yo. Mestiza soy, contradicción a dos voy, con cuatro colores del maíz en mi color yo. Mestiza soy, contradicción a dos, cuatro colores del maíz en mi color. Mestiza soy, contradicción a dos, cuatro colores del maíz en mi color.
Vous êtes toujours sur Brasero et on écoute toujours Mujeres Tejiendo Red, femmes tissant du réseau, un collectif de femmes guatémaltèques qui ont en commun de vivre à Bilbao en Espagne et d'être travailleuses domestiques.
Bueno, es la primera vez que salimos fuera de España.
C'est la première fois qu'on sort d'Espagne. On a envie de savoir comment s'organisent les autres gens, savoir par exemple s'il y a des organisations d'employés domestiques ici ou pas, comment elles s'organisent, parce que je crois qu'il y a eu des conventions ici plutôt qu'en Espagne. Connaître de nouvelles choses, faire des alliances, savoir comment s'organisent les femmes. Parce que, par exemple, nous, au début, nous n'étions que des femmes. Et puis on s'est rendu compte qu'on pourrait ouvrir nos activités à des groupes d'hommes, et on le fait des fois. Il y a des orgas qui sont mixtes. La nôtre est pour les femmes, mais elle s'ouvre par moments. Par exemple, là-bas, à Getxo, il y a une plateforme qui s'appelle Plateforme des migrants de Getxo, qui réunit des organisations de migrants de différents pays. Il y a des organisations culturelles, d'autres qui luttent pour les droits, d'autres qui s'occupent du sport, qui viennent de différents pays, par exemple des Philippines, de Bolivie, de Colombie, du Mexique, etc. Et donc, ils font des activités et on participe là-bas aussi.
Pour vous raconter un peu, il y a quelques années, j'ai eu l'occasion d'aller à Bilbao et depuis 2010-2011 à Toulouse. On a commencé à quelques Guatémaltèques qui vivent par ici. On a mis en place un collectif en Occitanie. de Guatémaltèques en solidarité avec le Guatemala.
De guatemaltecos en solidaridad con Guatemala. Nosotros también migrantes por diferentes razones. Y yo tuve la oportunidad de conocer
Et donc, Tejiendo Red. J'ai eu l'occasion de rencontrer Mujeres Tejiendo Red. Et l'idée qu'on puisse coordonner pour qu'elle puisse venir, c'est aussi pour qu'elle puisse voir d'autres endroits et qu'on puisse tisser du réseau entre Guatémaltèques. C'est pour ça que leur nom de collectif nous parlait beaucoup. Et aussi pour vous dire que l'idée principale, c'était qu'elle puisse se promener, connaître d'autres lieux, parce qu'un des piliers du groupe, c'est de prendre soin de soi et sortir de là où on est, ça en fait partie. Les seules qui ont pu sortir sont celles qui ont des papiers. Je crois qu'on avait vu trop grand. On pensait qu'elles seraient plus nombreuses à pouvoir venir, mais on se rend compte qu'il faut encore du chemin pour y arriver. Et on a pu le faire avec votre solidarité au festival, parce qu'il y avait ce hasard que le festival tombait juste maintenant. Donc elles ont fait l'effort d'arriver avant et d'être ici.
Mais luego también nos hemos dado cuenta que el camino para hacerlo requiere tejer. Y lo hemos logrado con la solidaridad de ustedes, del festival, porque daba la casualidad que el festival iba a tener lugar en la avenida de ellas. Entonces ellas hicieron también un esfuerzo por venir antes y estar aquí. Vamos a estar en el
On va aussi aller en mariage à Pamiers. Et là-bas, on a une autre camarade guatémaltèque qui fait aussi partie du réseau. Et on va se réunir avec Femmes du Monde. Des travailleuses domestiques qui viennent d'Afrique, qui sont dans d'autres situations. Je pense que c'est là qu'elles vont connaître d'autres expériences. Elles vont rencontrer aussi Regard de Femmes le mardi. Le mercredi, on va se promener. Et le vendredi, à Toulouse, on a une autre rencontre pour se voir entre femmes féministes, des collectifs, pour là aussi tisser du réseau. Parce que c'est important de se connaître entre femmes de tous les territoires. C'est
fondamental le travail entre nosotras de tous les territoires.
Il y a quelque chose que tengan ganas de.
Est-ce qu'il y a autre chose que vous auriez envie de dire ou de demander?
Mucho gusto. Yo soy Isabel, también integro a el colectivo de mujeres.
Bonjour, je suis Isabel. Moi aussi, je fais partie du collectif Mujeres Tejiendo Red. Je voulais juste rajouter, je crois que la question qui a été posée avant sur le thème des personnes qui sont comme des intermédiaires, des passeurs, ça existe. Et dans le collectif, il y a des cas de camarades qui ont comme une dette, parce qu'elles ne payent pas que le billet d'avion, mais elles payent beaucoup plus, genre le double du prix du billet. Et donc, c'est une menace pour les camarades. Elles ne savent pas ce qu'elles peuvent dire. C'est compliqué pour elles d'aborder le sujet parce que leur famille est menacée là-bas. Donc, c'est un vrai problème pour celles qui sont ici. Parce qu'en plus de ce qu'elles doivent, elles payent une dette avec un très fort taux d'intérêt. Et même si on ne leur prend pas leur passeport ou autre, leur famille là-bas est contrôlée, menacée. Alors, quand elles arrivent, elles ont besoin de s'acquitter vite fait de leur dette pour que leur famille soit tranquille. Donc, je voulais dire ça, ça n'arrive pas dans tous les cas, mais il y a des camarades qui l'ont vécu. Et en arrivant en Espagne, c'est compliqué de le dénoncer publiquement parce que leur famille est sous menace et ça limite les actions possibles. Surtout en sachant le genre de corruption qu'il y a au Guatemala. Je voulais rajouter ça parce que ça fait que d'une certaine façon, la pression est beaucoup plus forte.
Bon, alors s'il n'y a plus de questions, on peut peut-être s'arrêter là. Merci beaucoup d'être venu jusqu'ici et bonne chance.
Merci à la famille à Villemur donc, qui nous a permis cet enregistrement. Et pour faire une sorte de contrepoint sur ce qu'on vient d'entendre, En fait, on vous propose d'écouter un extrait de Françoise Vergès. Elle était venue à Terra Nova en 2019 présenter son livre « Féminisme décolonial » où elle partait justement d'une grève dans le ménage. Et c'était une grève à Paris à l'époque. Et elle disait des choses qui nous ont semblé raisonnées et intéressantes à écouter à la suite de cet entretien. On vous laisse, donc voilà, c'est coupé à l'arrache à l'intérieur de cette présentation qui est disponible sur le site de Canal Sud. Elle avait été retransmise par l'émission Radio Livre.
Il faut qu'on fasse attention quand on voit aussi la manière dont ces patriarcats se reconfigure et c'est différent de l'un à l'autre, mais la question reste finalement de ce capitalisme racial et de ce néolibéralisme et de la manière dont il fabrique des catégories femmes, c'est-à-dire une catégorie qui est renvoyée à des postes de travail précaires, sous-qualifiés, sous-payés et fragiles. Et donc la dernière chose, pour revenir à la question du début, de pourquoi je m'étais intéressée à cette grève, c'est parce que je trouve que le travail du soin et du nettoyage, et je mets les deux ensemble parce que je trouve que le nettoyage, c'est de prendre soin du monde, est aujourd'hui un terrain extrêmement important pour le féminisme décolonial, en cela qu'il rassemble des questions sur la migration, des questions sur la racialisation, sur la sexualisation de ce travail, sur l'industrie, sur le travail, la manière dont elle est constituée, cette industrie, sur visibilité, invisibilité, travail qui est absolument nécessaire, mais qui doit être invisibilisé, sur sa racialisation, sur la relation aussi avec l'industrie chimique, hein, parce que ces femmes utilisent énormément de produits chimiques et qu'il faut qu'il y ait cette odeur, etc. et tout, que beaucoup de femmes qui travaillent professionnelles aujourd'hui peuvent le faire parce que ces femmes-là nettoient, donc la relation toujours affective, blanche, femme blanche et femme racisée. La question de tas de maladies, mais aussi quand on voit les maladies, on voit les produits chimiques et puis les problèmes musculo-squelettiques. Mais il y a aussi toute cette dimension de stress induit par le racisme et le sexisme et aussi par ce que j'appelle l'économie de l'épuisement. C'est-à-dire que la plupart de ces femmes, qu'elles soient femmes de ménage à Buenos Aires, Maputo, Paris, Londres, elles vous disent qu'elles dorment 3, 4, 5 heures par nuit, parce qu'il faut se lever très tôt, parce que les transports sont toujours très longs, parce qu'en plus, elles doivent faire 2 ou 3 endroits le même jour, que les moments de transport ne sont pas comptés, et que donc elles sont absolument épuisées. Et cette question d'épuisement des corps racisés est au cœur, pour moi, du capitalisme racial. Et donc cet épuisement est aussi important à comprendre. À intégrer dans l'analyse. C'est-à-dire en quoi les luttes, donc par exemple les luttes de féminisme décolonial, c'est évidemment pour que des conditions de travail soient moins dures et que les salaires soient un peu plus décents, mais aussi de voir quels sont tous ces liens et comment on peut tirer sur plusieurs choses. Donc par exemple, je ne sais pas, récemment on me posait la question, mais qu'est-ce que vous faites du féminisme écologique ? Mais je ne vois pas comment le féminisme écologique ne peut pas être décolonial. C'est-à-dire que ne peut pas voir comment aussi même l'écologie est racialisée. Et d'ailleurs, peut-être pour conclure là-dessus, dans cette question aussi de nettoyage et de soins, je vois se reconfigurer une division entre le propre et le sale. La gentrification, la forme d'urbanisation, les architectures, c'est-à-dire les endroits dans les villes qui ont des espaces verts, des petits oiseaux qui chantent, des bancs pour s'asseoir, des jolies terrasses où les enfants peuvent jouer en toute tranquillité, les rues sont balayées, sont propres, il y a des petites fleurettes partout. Et l'endroit où travaillent ces femmes qui viennent nettoyer ça, relégué là-bas, où l'air peut être pollué, l'eau peut être polluée, il n'y a pas de transport, les rues ne sont pas balayées, il n'y a pas un seul arbre, ou s'il y a un pauvre square, il a 3 morceaux d'herbe brûlée. Et cette reconfiguration de ce qui est de la vie confortable, de ce qui fait la belle vie, de ce qui fait l'endroit agréable, et qu'on voit de plus en plus se faire dans les villes partout, cette forme de ville qu'on voit, ouverte pour les touristes, pour une certaine forme de consommation, se fait systématiquement sur la relégation des femmes de femmes racisées, de leur famille évidemment, très loin, sur leur travail invisibilisé, précaire, sous-qualifié, sous-payé, et leur exploitation constante. si on fait, si vous voulez, ce que je dis souvent, si on fait un dessin en tranches, c'est que on a un immeuble et au fur et à mesure qu'on monte, les endroits sont beaux, il y a des jardins, il y a des terrasses, il y a de grandes baies ouvertes sur de magnifiques paysages. Et vous descendez et au fond, la troisième cave, au fond, c'est ces personnes qui travaillent pour que tout ça là-haut soit clair, beau, rempli de soleil, propre et agréable à vivre. Donc c'est le pilier, ça fait partie de ces fondations de ce capitalisme racial qui se reproduit et qui fabrique des vies absolument de plus en plus précaires. Et des vies, le capitalisme, je disais, c'est un producteur de déchets. Hein. Selon la Banque mondiale, je disais, c'est près de 11 tonnes de déchets par jour qui sont produites. Mais c'est aussi la production d'êtres humains comme déchets. Donc il y a une production de qui a le droit de vivre, évidemment, et qui n'a pas le droit de vivre. Mais à l'intérieur de ça, ceux qui peuvent mourir sans que ça n'ait d'importance. Ou ceux dont la vie, les conditions de vie épuisantes, absolument épuisantes pour le corps, pour l'esprit, n'ont pas d'importance. Et c'est cela, pour moi, donc ce lien, c'est le terrain du féminisme décolonial, c'est d'étudier cela et de voir, donc pour moi, ce n'est pas l'égalité de genre, ce n'est pas la question du 50-50, ce n'est pas la question qu'on soit devienne toute générale dans l'armée, surtout pas, ou des choses comme ça. C'est vraiment la question de se poser. Alors évidemment, après, il y a les luttes à faire tous les jours, jour après jour, mais ça ne peut pas être de faire vraiment voir ce que le féminisme civilisationnel a mis en place comme discours, comme idéologie, comme propagande, et en quoi cela sert aujourd'hui les intérêts du néolibéralisme et de l'impérialisme et de vraiment de ces processus de racialisation qui les accompagnent toujours. Merci.
Pour te dire que tes mains, que tes gestes et que tes yeux, pour te dire que tes seins, ton sourire et tes cheveux sont les choses que je veux ici et dans ma tombe. Quand tes silences se font trop longs, je me languis de tes paroles. Et combien même j'ai raison, c'est le silence qui résonne. Tes silences, je les veux ici et dans ma tombe.
C'est garanti sans style, un paquet dans ma poche. J'arriverai bien à temps. Où sont passés mes proches? Je traîne mes pompes en avant. À gauche, ils baratinent. À droite, ils ont plus de cœur. On dirait un bal de mort, une danse de mauvais goût. Des bouches sur une tétine, le dollar l'air en fou. Je veux pas jouer dans cette cour. Funambule dans l'arène, accroche-toi si tu le peux. Demande pas de rendez-vous.
Pour te dire que tes mains, que tes gestes et que tes yeux, pour te dire que tes seins, ton sourire et tes cheveux sont les choses que je veux.
Je sais bien que tu trouves ça triste, mais moi je vois dans tes yeux la roue tourne dans le vide.
Quand tes silences se font trop longs, je me languis.
Le vide tourne comme une roue.
Accroche-toi
si tu le peux, tes rêves en ce voyou. Plus vite qu'une Ferrari, plus loin qu'une belle villa. Un jour on se dira tout, et on verra que c'est rien. La vie pour rendez-vous, un beau cœur clarifié, et c'est à peu près tout.
Quand tes silences se font trop longs, je me languis de tes paroles. Et combien même j'ai raison, c'est le silence qui résonne. Tes silences, je les veux ici et dans ma tombe.
Où sont passés les jours? Il va plus que mes bleus.
Quand tes silences se font trop longs, je me languis de tes paroles. Et combien même j'ai raison, c'est le silence qui résonne. Tes silences, je les veux. Ici et dans ma tombe, je sais ce que je veux. Dans le fond, c'est vivre encore. Je choisis les précieux pour éloigner un peu la mort. Aujourd'hui, j'ai ce que je veux. Que la mort vienne quand je dors.
C'était Bras Zéro, notre premier Bras Zéro de l'année. On se quitte ici. Vous avez entendu donc Mujeres Tejiendo Red, collectif de femmes guatémaltèques vivant à Bilbao, en Espagne, et travailleuses domestiques qu'on avait rencontré cet été. Et on a entendu Soy Mestiza, un rap de Rebecca Lane.
Vous avez aussi entendu un extrait du livre World and Work Hotel Cleaners, le métier des corps meurtris. C'est extrait de la revue Z de Marseille, qui est la revue numéro 10, qui est tout un dossier sur la grève, c'est pas du luxe, donc sur des gouvernantes en lutte dans des hôtels de luxe à Marseille.
Et on a entendu Françoise Vergès, donc, qui parlait de son livre « Féminisme décolonial à Terra Nova » quelque part en février 2019.
Et pour finir, la dernière musique toute douce que vous avez entendue, c'est Mansfield Tia avec Odezen, et ça s'appelle « Une danse de mauvais goût ».
Et demain aussi, il y aura des danses de mauvais goût, puisque le Premier ministre va faire son discours de politique générale et que, il va être accueilli dans la rue par des manifestations un peu partout.
On espère avec beaucoup de monde. Et à Toulouse, le rendez-vous est à 14h à Jean Jaurès. Très original.
Voilà, il y a un atelier banderole à midi sur la place Belfort, si vous voulez rejoindre l'Assemblée autonome de lutte. Et puis, pour continuer, finir et vous accompagner jusqu'à 8h et la fin de cette émission, la fin de ce Bras Zéro rentrée, un petit son sur les précaires de l'université, parce que ça fait un espèce de lien, cette précarisation générale, cette réalité du travail aujourd'hui qui fait que finalement, on n'a plus vraiment des conditions salariales qui permettent à un moment, par exemple, d'avoir une retraite, une couverture maladie, etc. Tout ce genre de choses. Et pour montrer aussi comment, à l'autre bout du spectre, à l'université où on est censé avoir des emplois qualifiés, finalement, il y a disqualification. Et on retrouve, c'est beaucoup des femmes qui parlent. Hasard ? Je ne crois pas.
Salut l'université.
Coucou l'université, c'était chargé de cours.
Coucou l'université, c'est ta chargée de t'aider.
Bonsoir l'université, c'était chargé de cours. Bon là il est presque 22h et il faudrait que je prépare mon cours pour demain matin. Mais je suis très fatiguée. J'ai toujours plaisir à donner des cours, mais ça devient de plus en plus difficile d'y consacrer de l'énergie. Il n'y a pas très longtemps, j'ai failli pleurer devant ma classe. Je devais leur expliquer pourquoi on devait chambouler tout le programme pour anticiper les problèmes des grèves, comme si moi, j'en avais pas des raisons de faire grève. Alors je leur ai expliqué que c'était dur pour moi de leur faire cours avec les conditions qui sont les nôtres.
C'est jamais vraiment pérenne, c'est-à-dire que toi, l'université, que j'aime profondément, tu me vampirises, tu bouffes absolument toute mon énergie et toute ma pensée, et malheureusement, tu ne rends rien. Du coup, comment est-ce qu'on fait ?
Alors moi, je suis docteur depuis quelques mois. J'ai eu de la chance, parce que j'ai été financée pour faire cette thèse. J'ai d'abord eu un contrat doctoral, et puis après, j'ai enchaîné sur 2 ans d'ATER. Mais en fait, je suis quand même cramée, parce que je ne sais pas comment on le fait les autres, mais en tout cas, moi, il ne fallait pas simplement que j'écrive 500 pages. Il fallait aussi que je sois publiée. Il fallait que je communique dans des colloques, dans des journées d'études. Il fallait que je donne cours. Il fallait que je sois élue dans des comités. Bref, il fallait que j'aie plein de casquettes. Et en fait, là, je suis très en colère parce que j'ai fait tout ça, parce que je suis cramée, je suis fatiguée. Et en fait, je me disais, bon, allez, c'est bon, t'as fini ta thèse, t'as eu des bons rapports de thèse, c'est cool, et il te reste, allez, quoi, 2-3 ans de précarité. Et en fait, là, avec la loi LPPR, ce que j'apprends, c'est que le statut de MCF, il est clairement supprimé. Et du coup, en fait, on est en train de me dire, bon, bah écoute, la précarité, c'est pas 2-3 ans, potentiellement, c'est encore 6-7 ans. Et ça, c'est vraiment pas possible.
Tu sais, comme j'aime montrer en classe les extraits de mes films préférés, j'ai l'impression d'être bloquée dans une scène que je préférais voir projetée sur le tableau plutôt que de la voir prendre vie dans les couloirs de la fac. Tu sais, cette scène dans Titanic où tous les passagers fuient et sautent par-dessus bord parce que le bateau coule, mais que les musiciens continuent de jouer. Bah, j'ai l'impression de faire partie de ces musiciens qui jouent encore au milieu du naufrage. L'université prend l'eau, elle nous arrive jusqu'au cou, mais on est là, à continuer à enseigner, à corriger des copies, à surveiller des partiels, à répondre à des mails d'étudiants, à des appels à communication et à publication, à faire des PowerPoints jusqu'à 3h du matin. On est là, un peu partout, à faire 10 000 choses à la fois parce qu'on a envie d'exister et d'apporter notre pierre à l'édifice de la recherche, pour pas que le mur s'écroule.
On peut essayer de lutter à notre échelle, mais on se sent quand même très seul.
J'ai dû arrêter de donner cours après 9 ans de bons et loyaux services et de débats passionnants avec tous mes étudiants. J'ai eu ma thèse avec les félicitations et j'ai 2 fois été qualifiée pour devenir maître de conf. J'attends toujours un poste de titulaire, mais la fac refuse de me recruter car je suis au chômage et payer mes ACEDIC creuserait les dettes de la fac. Pourtant, pendant 9 ans, comme la fac ne me paye pas tous les mois et m'oblige à avoir un emploi principal pour être recrutée, j'ai dû travailler comme surveillante dans un collège, corriger des copies en permanence devant mes collégiens agités pour garder des heures de sommeil chez moi, faire des allers-retours entre mon travail et la fac. La même journée, je donnais cours en amphi devant une centaine d'étudiants de 8h à 10h, puis je prenais le RER et je n'avais pas le temps de prendre une pause déjeuner et j'enchaînais mon service comme surveillante jusqu'à 18h. Et aujourd'hui, bah, je suis au chômage et mes allocations chômage sont sous le seuil de pauvreté et je ne suis pas sûre que mes collègues titulaires se rappellent de mon prénom alors qu'ils m'ont eu comme étudiante pendant des années.
Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est doctorant, on a un statut qui ne correspond à rien ou à tout à la fois. Quand on est doctorant, on est étudiant, mais si on a une charge d'enseignement, on est aussi prof. Si on a de la chance, on a un contrat de travail, parfois un contrat d'heures complémentaires. Dans ce cas, on est payé au lance-pierre 2 fois par an. Parfois, si on est privilégié, on a un CDD, de doctorant contractuel ou d'ATER, par exemple. Quand on est doctorant, on est étudiant, parce que faire une thèse n'est pas considéré comme un travail. Mais on peut donc aussi être employé par l'université. Alors dans ce cas, on a aussi une carte professionnelle. C'est pratique, sur les formulaires, on a toujours plusieurs cases qu'on peut potentiellement cocher, peut-être selon notre humeur. En fait, on ne comprend pas vraiment où on se situe. Aucune case ne correspond jamais à notre situation. À la fac, c'est pareil. Tantôt considéré comme étudiant, tantôt comme personnel de l'université, tantôt comme chargé de cours. Allez, après tout, tant qu'on nous met quelque part, on pourrait s'estimer heureux. Mais alors parfois, ça se corse un peu, parce qu'être doctorant, ça signifie parfois qu'en tant qu'enseignant, on n'a pas toujours accès à la plateforme en ligne au sein de laquelle on peut normalement déposer des documents pour les étudiants. Pire, on ne peut pas toujours nous-mêmes saisir les notes de nos étudiants sur le logiciel correspondant. Et puis, alors quand notre contrat se termine, eh bien, pour toucher les allocations chômage qui nous reviennent de droit parce qu'on a été salarié, eh bien, on fait profil bas et on espère que ça passe. Pourquoi ? Bah, parce qu'on est étudiant, vous avez pas suivi ?
Coucou l'université, c'était chargé de cours. Moi, il m'est arrivé un truc absolument exceptionnel aujourd'hui. Donc, on est le mardi 28 janvier et je viens de recevoir mon contrat de travail pour le premier semestre. Alors, là, il faut que je le signe et après, il faut qu'il soit signé pour le président. Mais ça veut dire à peu près que pour mai, je pense que j'aurai un contrat pour mes heures du premier semestre. Donc voilà, bah, je propose qu'on aille boire une bière. Hein.
Tu te souviens l'an dernier au second semestre ? Tu m'as fait signer mon contrat d'heures complémentaires après le dernier cours du semestre, à la fin du mois de mai. Ah oui, après j'ai été payée seulement en juillet. Bon, d'autres chargés de cours ont été carrément payés en août. Du coup, on essaie d'établir le record de celui ou celle qui sera le plus payé en retard. Je pense qu'on pourrait même créer un livre spécial Guinness des records des doctorants précaires.
Salut l'université. Alors, je t'aime beaucoup, hein, mais je suis quand même très fâchée aujourd'hui parce que je viens d'apprendre que mon délai de carence de 2 mois, suite à la fin de mon contrat et à l'ouverture de mes droits au chômage, va être allongé parce que, pour l'instant, j'ai pas d'attestation et visiblement, je peux toujours attendre.
J'ai pris 3 mois à faire reconnaître l'existence de mes 2 années de travail et 6 mois à obtenir mes paiements. Pourtant, j'avais donné 52 heures de CM et corrigé 288 partiels en 2 ans.
Coucou l'université, c'est ta chargée de cours. Écoute, je t'appelle parce que j'ai reçu ma fiche de paye et en fait, bon, je suis un peu nulle en maths, mais du coup, on m'avait dit que je serais payée à l'heure, donc ça, c'est OK, je suis payée 30 balles de l'heure. Sauf qu'en fait, du coup, les heures de préparation de cours, donc j'ai calculé que pour 1 heure de cours donnée, il me fallait 2 heures de préparation, mes heures de suivi d'étudiants, de correction de copies ou de préparation d'examen, en fait, elles ne sont pas payées. Donc, en fait, je suis un peu nulle en maths, hein, mais du coup, j'ai calculé que pour 1 heure de cours payé, en vrai, je travaillais 6 heures. Donc, ça fait que je suis payée 5 € de l'heure. Ok, en fait, comme j'ai un doctorat, je me disais que c'était un peu bizarre. Si tu pouvais me rappeler assez rapidement pour qu'on discute de ce calcul à la con, ça serait vraiment super. Ciao.
Et là j'ai eu un salaire de 22 € pour le mois de janvier, alors que j'ai travaillé, enfin que j'étais sous contrat pendant 20 jours. Voilà, mais bon, on sait pas trop pourquoi, c'est la fac. Enfin, je peux quand même m'estimer chanceuse puisque j'ai eu un contrat doctoral et que donc j'ai été payée pour faire ce que j'aimais pendant 3 ans. Voilà, merci.
On était fin novembre et j'avais toujours pas été payée de mon cours de l'année d'avant. Quand je suis sortie de mon cours, j'ai marché dans ces grands couloirs de la fac pour rejoindre une petite queue devant les bureaux du CROUS. Donc j'étais au milieu d'étudiants, étudiantes, heureusement pas les miens. Et donc je suis allée expliquer ma situation et demander un formulaire d'aide ponctuelle dont une amie m'avait parlé. Tu peux pas savoir ce que j'ai ressenti à ce moment-là. D'avoir bientôt bac plus 8, d'avoir plusieurs boulots, en plus de ma thèse, et de me dire que là j'allais demander des sous. Le pire, tu sais quoi, c'est que ce formulaire, je l'ai pris. L'assistante sociale avec qui j'ai parlé m'a dit que j'étais tout à fait éligible pour cette demande, mais je l'ai jamais renvoyé. Je me suis dit que je voulais que les sous aillent aux étudiants et que moi, j'allais continuer à me battre pour qu'on ait des conditions de travail décentes.
Tu es en crise et ce n'est pas la LPPR, la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, que le gouvernement Macron est en train de fomenter, qui va arranger ta situation, puisque au lieu d'aider tes chargés de cours, tes enseignants, ton personnel administratif, au lieu de nous aider, tu vas nous enfoncer encore plus en précarisant les gens, en faisant disparaître le statut de maître de conférence, ce qui est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. J'ai fait 10 ans d'études, j'arrive au bout du tunnel, je soutiens dans 3 mois, pour qu'on me dise, le métier que tu veux faire et auquel tu t'es formé disparaît. Tiens, d'ailleurs, preuve que t'es en train de te transformer en une immense entreprise, toi, l'université, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, je check ma boîte mail pro et je vois 2 mails. Le premier, qui était une formation de gestion de projet. Moi, je croyais que je gérais de la pensée et des humains, à la rigueur. Et la deuxième formation, c'était une formation de gestion du stress. Mes frères, en fait, commencent par me donner un poste et j'aurais pas besoin de gérer mon stress.
En fait, je me demande combien, enfin, ce que tu vas me demander. Enfin, je t'aime, hein, je suis presque mariée avec toi, mais là, il y a un problème et je veux plus subir ça. Voilà, salut.
J'espère que t'entendras ce message.
Bras zéro, approche tes mains du micro.
Voilà, Bras zéro, c'est fini pour de vrai cette fois-ci. Précaire de tous les pays, quittez votre travail. Ce n'est pas l'université que vous détestez, c'est le capitalisme. Allez, bisous.
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 À bientôt.